Est. Et donc c'est Mireille Privat qui nous fait l'honneur de sa présence, qui, vous l'entendrez peut-être, est native de l'Hérault, de Pézenas plus particulièrement, et après des études de physique-chimie, on voit bien que ça mène quand même à la littérature, est nommée professeure à Brest, donc un long chemin à travers la France. Et donc elle s'occupe essentiellement de Victor Segalen, avec un mémoire sur la poésie moderne, de Baudelaire à Bonnefoy, et elle-même est poète et a participé à quelques revues, Friche, Cahiers de la rue Ventura, que nous connaissons de notre côté également. Et dernièrement, elle a fait une communication à Segalen de Brest, empreinte des sciences dans la correspondance de Victor Segalen. Et donc quelques recueils de poèmes, Amour d'herbe et de vague en 18 et Séisme en 19. Si c'est bien ça.
C'est ça. Bon, il se trouve que... Je peux essayer son livre.
Comme vous voulez. Il est là, en cas de besoin.
Ok. Il se trouve que j'étais occupée, j'ai été requise, si on peut dire, à partir de ma retraite. J'ai repris des études à la faculté Victor Segalen de Brest, qui est la faculté littéraire. Et je... Dans les travaux qui ont précédé la commémoration de la mort de Victor Segalen, qui était en 2019, j'étais plus ou moins chargée d'être une référence de la connaissance des œuvres de Segalen, ce qui fait que j'ai tout lu. Et bon, je suis devenue presque à mon cœur défendant une espèce de spécialiste de Segalen. Alors, dans cette aventure de la diffusion de l'œuvre, qui n'est pas toujours très bien connue, on verra pourquoi par la suite, je me suis heurtée à la difficulté, en particulier de l'œuvre poétique, et donc l'exposé que je vais faire tient compte de cette difficulté, et en particulier, vous verrez que l'ordre de présentation des recueils de poèmes ne suit pas l'ordre chronologique d'élaboration, mais il m'a semblé que c'était une façon d'aborder plus facilement cette œuvre poétique qui peut être assez déconcertante. J'ai un souvenir cuisant d'avoir essayé de lire les stèles dans l'édition de Gallimard, l'édition poésie. Je suis devenue presque folle, j'ai renoncé. Et c'est plus tard que j'ai appris effectivement à connaître, en particulier au travers des éditions commentées qui sont souvent très intéressantes à différents points de vue. Alors, même si on s'intéresse essentiellement à l'œuvre poétique de Segalen, on doit ajouter à cette qualité de poète une énumération d'activités qui n'a rien d'anecdotique. En toile de fond, si je peux dire, il a été médecin de la marine très sérieusement et continuellement dans différents types de tâches. Puisque nous sommes en période d'épidémie, nous pouvons signaler qu'il a été au front de deux épidémies, l'une de peste en Mandchourie en 1911 et une à Brest en 1918. Il a été responsable des salles des malades par la grippe espagnole, puisque Brest fait partie des ports où les soldats des États-Unis ont débarqué en apportant sur le continent la grippe espagnole. Tout aussi continuellement, il a été romancier, essayiste, auteur de théâtre, linguiste, il était en particulier interprète de chinois pour la marine, traducteur du chinois, éditeur chez Kress. Il a créé une collection coréenne où a paru La connaissance de l'Est de Claudel. Il a été aussi quelque peu archéologue, il a quand même marqué l'archéologie de son temps, et il a déployé une richesse remarquable d'activités au cours d'une vie brève. Celle-ci a commencé à Brest en 1878 et s'est achevée le 31 mai 1919 par une mort tragique sur les hauteurs du Finistère, où il se trouvait ensanglanté sous la pluie de la forêt de l'Huelgoat en compagnie d'un recueil de l'Hamlet de Shakespeare. Très malade depuis plusieurs mois d'une dépression profonde, on ne sait si ce fut un suicide ou un accident. Mais c'est une mort de poète qui se lie inexorablement à sa carrière de médecin de la marine, vécu à la fois comme une entrave à ses rêves de poète, mais aussi comme une chance, puisque c'est grâce à son activité de médecin de la marine qu'il a pu faire le tour du monde en bateau, et en particulier séjourner 3 fois en Chine dans des périodes relativement longues. Alors, le premier texte publié par Ségalen est sa thèse de médecine en janvier 1902, intitulée « À l'université, l'observation médicale chez les écrivains naturalistes », mais paru dans le grand, pour le grand public sous le titre « Clinicien à ses lettres ». C'était au Mercure de France, je parle. Le lien entre l'analyse des œuvres d'un point de vue scientifique et la critique littéraire y est déjà patent. Tout au long de son œuvre, on trouvera une recherche rigoureuse de faits relatés dans une langue très souvent poétique et une écriture en poésie ou dans le roman, le théâtre, appuyée sur les mêmes faits, les mêmes connaissances, et cette fois orientée vers la connaissance de soi. Le premier ouvrage littéraire rédigé par Ségalen, le roman intitulé « Les immémoriaux », donc publié en 1907 la première fois, toujours au Mercure de France, dont l'idée est née pendant le séjour de l'auteur à Tahiti, au cours d'une longue escale coupant le tour du monde couronnant sa formation de médecin de la marine, est inspiré de ses observations esthétiques, ethnologiques et historiques sur la civilisation maori. On y trouve, sur l'indéfectible trame de la rigueur scientifique, l'impression du moi profond de l'univers, qui s'incarne dans divers personnages, dont bien sûr le héros principal. Il écrira 2 autres romans d'inspiration chinoise, cette fois René Leys et Le Fils du Ciel. À ce stade, il convient de se pencher sur la notion d'exotisme qui vient immédiatement à l'esprit quand on cite ces 2 œuvres et, de fait, à propos de toutes celles de Ségalen. Au moment où écrivait Ségalen, toute une littérature, en particulier dans le domaine du roman, cultivait abondamment le thème de l'exotisme auquel fournissaient d'ailleurs des officiers de marine comme Pierre Louty et Claude Farrère, amis de Ségalen, ou de façon plus réservée de diplomates comme Claudel. Pour l'instant, je cite juste un des avis de Ségalen que Ségalen aimait dans sa correspondance à propos des romans de Louty. Le pittoresque confit, rôti, salé, sucré, la gélatine Louty. En réalité, Ségalen, en reprenant le terme d'exotisme, en a opéré un profond détournement de sens. Au lieu d'intégrer à une vision du monde bien européenne des éléments de décor venus d'outre-mer, il veut considérer d'autres civilisations en elles-mêmes, comme l'exprime Gilles Manceron, qui est un petit-neveu d'Henri Manceron, je crois, qui est un officier de marine ami de Ségalen. Alors, ce Gilles Manceron a écrit une biographie du poète et une présentation des et il a fait une présentation des fragments sur ce que enfin des fragments de l'essai que Ségalen avait écrit sur ce qu'il appelait lui l'exotisme. Alors je cite, considérer d'autres civilisations en elles-mêmes, c'est pour Victor commencer par apprendre sa langue, étudier son art, son passé, ses traditions. Cela a été sa pratique, que ce soit en Polynésie ou en Chine, comme le montrent son œuvre et ses travaux d'exploration. On peut même dire que Ségalen a pratiqué avant l'heure une anthropologie moderne. Plus philosophiquement, il a aussi étendu le concept d'exotisme, comme il expose avec acharnement, alors dans ses lettres, dans ses analyses diverses, il a étendu donc le concept de l'exotisme à la notion du différent, à la perception du divers, c'est une de ses expressions favorites, à la connaissance de quelque chose qui n'est pas soi-même. Et cette perception de l'autre sera une voie qui ramènera à la connaissance de soi-même et à une façon d'exprimer cette connaissance, ce qui apparaît très souvent dans toutes les parties de l'œuvre et en particulier dans la poésie. Connaître l'autre, pour Ségalen, c'est le connaître en soi, mais discerner peut-être les ressemblances qu'il y a entre lui et soi-même, et aussi constater les différences, et c'est par ce type d'analyse que finalement il arrive à une meilleure connaissance de soi. Alors c'est vraiment important parce que, je le répéterai peut-être, ce qui n'est pas recommandé pour l'élégance de l'exposé, mais dans la plupart de ces poèmes, on retrouve cette recherche, enfin, on retrouve l'exotisme dans son sens, en particulier la Chine, dans ce qu'on verra, mais ça se ramène souvent après à une analyse de soi-même ou de ses propres désirs. Alors naturellement, nous sommes ici intéressé essentiellement à l'œuvre poétique qui tient une solide place à côté des romans déjà cités, du théâtre Siddhartha qui est inspiré de la vie de Bouddha, Orphée roi et le combat sur le sol qui est rattaché à l'histoire de la Chine, des ébauches théoriques comme Gauguin dans son dernier décor, le double Rimbaud, essai sur l'exotisme que j'ai cité, des recueils divers comme Équipés, Briques et tuiles, et des livres ou articles archéologiques ou d'histoire de l'art. Alors, les goûts de Ségalin en matière de poésie vont de Baudelaire à Claudel, ceux qui font partie de sa vie. Claudel, à qui il dédicace Rastel, avec une affection particulière pour Rimbaud et Mallarmé, ces deux font partie de sa bibliothèque indispensable, de ce qu'on trouve exprimé dans une lettre à sa femme. Leur nom, avec d'autres, revient sans arrêt dans la correspondance. Il faut avouer que l'obscurité apparente de certains poèmes de recueil comme celui de Stel incite, comme dans le cas en particulier de Mallarmé, à une certaine prudence au moment de les aborder. Il vaut mieux avoir en main une édition commentée, ce que je déteste par ailleurs, mais c'est nécessaire dans ce cas-là. C'est pourquoi, bien que ce recueil soit le premier écrit et publié, nous réserverons sa présentation à la fin de notre exposé. En réalité, tous les poèmes des différents recueils ont été écrits fin 1910 et fin 1916 et pour la plupart, sauf stèles et peintures, ont été publiés bien plus tard. Donc, on peut les présenter dans l'ordre qui vous plaît. Alors, nous commencerons donc par présenter le recueil peinture. L'inspiration des peintures est assez parallèle à celle que nous trouverons dans Stèle. Cette inspiration en est profondément chinoise. Au lieu d'adopter comme cadre celui des monuments omniprésents en Chine, Ségalin prend la place d'un peintre traditionnel en peignant avec des mots des scènes que ce peintre réaliserait avec des couleurs. Tout en peignant, le peintre compose un poème, souvent livré avec la peinture et avec des commentaires de lettrés. Le poème chez Ségalin se confond avec la peinture. Écrit en prose, donc je souligne parce que le style de Ségalin est différent suivant les différents recueils. Et il y a apporté beaucoup de soins, donc il faut noter ces différences. Écrit en prose, le recueil donne des textes d'une haute tenue dont les thèmes sont puisés dans des documents chinois, mais dont le questionnement rejoint le questionnement intérieur du poète. Ce que j'avais commencé à dire, je crois que je vais le répéter presque à chaque fois. Il comporte trois sections, peinture magique, cortège et trophée des tribus des royaumes, peinture dynastique. Je me tourne vers nos héros. Pardon. Nous écouterons d'abord une des peintures magiques qui est Portrait fidèle.
Portrait fidèle. Maintenant, le peintre livre ici l'image d'une seule jeune fille. Elle est belle par la beauté, les mains longues, le cou gras, l'enroulé de ses cheveux et la retombée de ses yeux. Une autre, ailleurs et loin de nous, existe vraiment, qu'il lui ressemble, car ceci est un portrait. Le peintre la donne ici plus douce que l'autre n'est douce dans l'existence humaine, car il la peint ici comme il l'aime. Et comme l'autre ne l'aime pas, chaque jour suppliant l'image avec des mots et avec des larmes, il prend un dur poinçon et perce le cœur dans la soie. au même instant, dans sa maison, l'autre pousse un cri et porte la main à son cœur. La mère s'effraie dans la maison, car la fille maigrit et l'on ne sait quel médecin provoquer. Avant peu, son vrai cœur lui dira qui la blesse. Avant peu, elle se rendra. C'est la peinture qui mourra, non pas l'autre. Mais le peintre, alors, plus l'aimera. Ceci est un portrait fidèle.
C'est écrit en capital. Un portrait fidèle, c'est écrit en capital. Voilà. Alors, ici, ce poème est inspiré d'une anecdote
de la vie du grand peintre Kukaiche du 4e siècle. Elle est détournée par Segalin pour parler de la douleur amoureuse. Mais il faut remarquer que si le lien entre peinture et magie sur lequel elle s'appuie est classique en Chine, il se trouve aussi dans l'imaginaire de l'Occident. Alors en particulier à la fin, dans le courant du 19e siècle, il y a Edgar Poe, Hoffmann, Wilde, qui a joué aussi sur le rôle de la peinture dans les faits magiques. Alors, l'expérience des recherches archéologiques très sérieuses effectuées sur le terrain en s'appuyant sur des textes anciens fournis le sujet du très long poème choisi dans les peintures dynastiques dont nous allons écouter des extraits. C'est vraiment un très long poème, donc j'ai fait une sélection des différentes parties. Alors, c'est le tombeau de Qin.
Trois collines superposées. Trois collines s'épaulant jusqu'au sommet unique, noblement convexe sous le ciel creux. Et de droite et de gauche, la descente longue du dévers, fuyant à l'infini horizontal. La surface est franchie. Nous voici de l'autre côté de la terre, mais non pas dans le noir. Nous suivons le chemin de l'âme vers le cœur du monument. C'est un couloir long, voûté, éclairé seulement à l'autre bout, à 500 pas de feu jaune, dont on recueille les reflets obliques incrustés dans les murailles, accrochés aux innombrables scènes figurées sur les parois. Tout est vêtu de rites historiés. Ici, donc, il décide d'abolir le passé derrière lui. Il fait un seul bûcher de tous les livres. Il enterre vivant les lecteurs des livres. Il renie tout précurseur, les bons et les autres. Et il se proclame origine, empereur 1. Et nous voici devant le sépulcre. Par magie, ce peuple de femmes est encore là. Ses 200 concubines ensevelies vivent avec lui. Et que la nuit jaune perpétue, sans réveil et sans agonie. Mais en haut, c'est plus étonnant. Ce plafond qui porte le poids des trois collines semble tisser des légers dessins du ciel. En bas, vous marchez sur les figurations de la terre, des fleuves et des mers. Tout autour sont les modèles des palais des royaumes détruits qu'ils reportaient autour des siens, ce sont des joyaux, des objets rares, les mondes qu'il imagina ou que son désir suscita. Des gens réciteront que 5 années après la mort et la cérémonie, le grand tombeau fut fouillé par les hordes rebelles, le cadavre dépecé, les joyaux fondus. La tombe est vide, c'est vrai, mais tout l'empire est toujours empli de lui, administré par sa règle, uni d'un seul morceau par sa force. Lui et rien alentour. Les deux mains pressées sur son ventre, il maintient avec peine un orgueil plus ventru que celui de tout autre. Voilà l'homme qui dompte les hommes, ou à son aise les dévore. Il se tient droit sur ses deux pieds écartés.
Donc, tout le début de ce qui a été lu, très bien. Je trouve un grand plaisir d'entendre ces galets si bien lus. Ce sont des extraits des chroniques historiques et d'autres livres chinois traditionnels et qui sont tout ce qu'on connaît de l'intérieur du tombeau qui n'a jamais été fouillé. J'ai visité moi-même Tian et les alentours du tombeau où ont été découverts, ce qui ne figure pas dans le texte, les soldats en terre cuite qui ont connu un succès absolument mondial. Mais Je me rappelle très bien avoir entendu en anglais, parce que ça se faisait en anglais, le guide qui était dans le bus nous raconter ce qu'il y a dans le poème. Et quand j'ai lu le poème, parce que je ne le connaissais pas encore, j'avais les cheveux qui se dressaient sur la tête, parce que ça faisait une confusion de sensations tout à fait étonnantes. Et alors, la dernière vision de l'empereur, avec toutes ses richesses, les arts qu'il a fait créer, etc., etc., ne fait pas oublier les horreurs qu'il a accomplies, exécuter les poètes, enterrer ses femmes avec lui, enfin c'était absolument horrible, mais on voit bien que, d'après le dernier vers, il se tient droit sur ses deux pieds écartés. Ségalène n'hésite pas à se reconnaître dans cet empereur, puisque lui, il essaye d'être maître de son propre personnage. Alors, on retrouvera l'empereur dans d'autres poèmes. Alors, ce recueil constitué dans l'esprit de Séguin un hommage à la peinture. Il était très féru d'art et il a écrit d'autres recueils qui célèbrent d'autres aspects de l'art. Alors, nous allons maintenant aborder les œuvres écrites cette fois en hommage à la musique. Le recueil non achevé devait être dédicacé à Debussy. À propos de cette nouvelle inspiration de la forme poétique dans une lettre, et Séguin écrit à son ami Jules de Gautier, « La forme en sera un poème court, conçu sur des rythmes chinois, 5 plus 7, le nombre de syllabes, hein, rejoignant pour la longueur du souffle notre alexandrin qui est 6 plus 6. » Mais ces poèmes, bien que n'étant pas des traductions, c'est toujours Séguin qui parle, seront constitués à la manière chinoise de strophes suivies d'une prose qui les expliquera. Qui les expliquera. Alors, ces odes ne seront publiées pendant longtemps, enfin, seulement trois de ces odes seront publiées pendant longtemps. Le recueil n'était pas terminé quand Séguin est mort, et dans la dernière édition des œuvres complètes dans la Pléiade, il y a tout un dossier qui reconstitue certaines odes ou certains publient une différente version des odes. Ces poèmes sont donc réunis sur un titre qui est une claire allusion à Claudel, qui a écrit des odes magnifiques aussi, dont Séguin admirait la puissance poétique. Il lui a dédié les stèles. Mais ces odes, dans le goût très précis des Chinois, le rythme 5-7, sont aussi une critique de l'autre poète. Alors, dans une de ses lettres, Séguin a écrit « Si Claudel a mis sa marque sur la Chine, une certaine Chine, il ne semble pas que cette Chine ait mis sa marque sur Claudel. Il a reproché férocement à Claudel, diplomate ayant séjourné plusieurs années en Chine, de 1895 à 1909, de n'avoir jamais appris un seul mot de chinois. » Alors, nous pouvons écouter la première ode qui est le vent des royaumes. Oui.
Vent des royaumes. Lève, voix antique et profond vent des royaumes, relent du passé, odeur des moments défunts. Long écho sans mur et goût salé des embruns des âges, reflux assaillant contre les uns. Mais tu ne viens pas de leur plaine maléfique, tu n'es point comme eux poudré de sable et de briques, tu ne descends pas des plateaux géographiques ni des ailleurs, des autrefois, du fond du temps. Non point chargé d'eau, tu n'as pas désaltéré des gens au désert, tu vas sans but, ignoré du pôle, ignorant le méridion doré, et tu ne passes point sur les palmes et les baumes. Tu es riche et lourd et suave et frais, et pourtant, une fois encore, descends avec la sagesse ancienne, et malgré mon dégoût et ma mollesse, viens ressusciter tout de ta grande caresse. » Et donc il y a un commentaire. Alors,
voilà, qui fait partie du poème de l'Aude, disons.
Le poète entend sans doute ici par « vent des royaumes », expression empruntée au livre des vers, cette inoubliable et torrentielle impression du passé, envahissant parfois en triomphe le présent, l'abominable présent cadavérique, ainsi qu'il est dit ailleurs. Et ce vent est bien le souffle du passé. Ce vent n'est pas le jaune qui dévale les steppes mongoles, d'où cette allusion historique des Huns. Il n'apporte point la poussière, ni la tempête, ni la pluie, mais plénitude. Il se suffit à lui-même. Tout le goût du passé se concrète un jour, une heure, un moment. Alors l'antiquité déborde et l'instant crève. La vie même, la très précieuse et très affairée vie, se suspend à son passage. On n'espère plus, on ne désire plus, on ne peut crier de joie. Mais de toutes les bouches de l'esprit, on aspire et on gonfle de lui. Cette ode au passé ne peut donc être ancienne, il faut bien qu'elle date d'aujourd'hui.
Donc ce souffle du passé est bien celui qui intéresse au premier plan le poète. Le plus chargé d'exotisme, le plus exaltant, la plus grande évasion du quotidien, et donc celle qui lui permet de garder sa joie. Alors le troisième recueil de Ségalin, de poèmes de Ségalin, c'est un grand poème resté inachevé. Bien qu'ayant été travaillé, très travaillé, il se compose de 58 séquences comportant le plus souvent 9 distiques formés d'un long vers de 13, 15 ou 18 syllabes et d'un vers constant de 9 syllabes. Alors le 9 et ses multiples, le 9 est un chiffre sacré, c'est chinois comme 7 en Occident. Et il donne à ce poème l'allure que l'on trouve aussi dans la poésie française, par exemple chez Verlaine, la recherche du nombre impair, du vers impair. Comme souvent chez Ségalen, il se réfère à des expériences vécues, des recherches érudites et des méditations. Il n'est jamais allé au Tibet, bien qu'il s'en soit approché de très près deux fois. Une fois, il n'a pu accéder au Tibet à cause du temps. L'automne arrivait et la montagne était inabordable. Il a voulu. La seconde fois, ça a été interrompu par la guerre de 14. Donc, il n'y est jamais allé. Et il a voulu le recréer intérieurement pour en faire un lieu des exaltations vitales les plus hautes. Le corps et l'âme confondus touchent aux cimes du surhumain. C'est Michel Taylor qui a écrit ça. Donc j'en ai fait deux extraits que nous pouvons écouter tout de suite.
Si, ben, Incipit.
C'est le premier.
Oui. Des ailes, non ? Le vol plumeux n'a que faire au sommet des cimes, où jeu d'ouragan ne porte pas. Ce n'est plus d'un frisson léger que se dompte ici cette rime, mais saccadant le roc sous mon pas, à droit de vie, à gré de mort, méprisant la plaine marine, d'un pied dur, j'aborde ta colline. Bonne, ô Tibet, lutrin du monde chantant, j'ose en toi ce poème exaltant.
Il y a une allusion à Verlaine, là aussi, hein, dans le « Ce n'est plus qu'un frisson léger que dans ainsi cette rime ». On a l'impression qu'il ne cite pas Verlaine souvent dans sa correspondance, mais c'est quelqu'un qui l'a marqué, sûrement par ce rythme impair qu'il a retrouvé souvent chez les Chinois. Bon, pas ça maintenant.
Bassin. Nuit de chasse, nuit d'épousailles, où voici à moi au déduit la vierge antilope ultramontaine. Sous l'alcôve immense des pics, sur l'oreiller du haut pays, je couche une épouse tibétaine. Je la tiens là comme à l'affût, moi le premier de ses maris. payant le plus honorable prix, je l'ai reçu en un marché des mains de sa mère hideuse. Il me faut l'assurer de la gueuse. C'est bien, tais-toi et n'aie pas peur. Je ne suis pas diable étranger. Je t'offre ce qui est dans l'usage. Entre femme et homme bien-né, nous l'appelons fleur d'oranger. Tiens-toi et fais-lui donc mon visage. Cheveux errants, seins émouvants, jupe enfuie au vent mordant, prise et domptée comme un essaim. Centauresse à deux pieds humains, laisse-toi prendre au rite ardent, laisse la déesse gonfler, frémir en toi. Et maintenant que l'Europe tombe ou l'eau s'élève, flambe toute une ville en chaleur.
Donc c'est la ville, la ville qu'il n'a jamais vue d'ailleurs, sous la métaphore de la femme qui est sensuelle, comme c'est la dépeindre, et la vivra d'ailleurs, si elle. Donc, nous en venons maintenant à l'hommage de Séguin au caractère de l'écriture. Nous avons eu les peintures, nous avons eu la musique, et maintenant nous avons le caractère d'écriture. Les stèles, le premier recueil poétique paru, ont commencé à s'écrire dans les tout premiers mois du premier séjour du poète en Chine, en 1909 à Pékin, en tant qu'élève interprète de la marine pour le chinois. Le volume s'est ensuite lentement constitué tout au long de ses différentes expériences chinoises. Le parti pris du cadre chinois des différents textes est profond, la forme même en témoigne. L'unité poétique en est une sorte de verset, et ces versets sont groupés dans des sortes de strophes, un peu à la manière d'un sonnet, auquel manque rarement une pointe, et le poème entier est contenu dans un rectangle qui emprunte le rectangle des stèles de pierre traditionnelle. C'est la forme des stèles. Alors, ces stèles sont pour beaucoup des objets d'art, par les calligraphies qu'elles portent. C'est peut-être des calligraphies de moments pop funéraires, mais simplement des affichages de décrets impériaux ou des diffusions de réflexions philosophiques. Alors, les Chinois ont fait des musées de stèles. Il y en a dans plusieurs villes, dont Axian. J'ai visité fort rapidement, parce qu'il faut plusieurs jours, en fait, pour les visiter. Et je suis tombée stupéfaite devant une gigantesque stèle qui portait le seul caractère chinois que je connaissais vraiment, qui était le caractère homme. Et j'en suis restée vraiment foudroyée. Et j'ai compris en lisant Séguin et en le comparant à ce souvenir, j'ai compris ce qu'il voulait dire, effectivement. Alors, le rectangle dont je parle, qui entoure le poème, est bien présent dans la première édition bibliophilique, réalisée sous la forme ancienne d'un livre chinois, donc un livre plié en accordéon, manque dans certaines éditions récentes, mais dans le document que j'ai distribué, il y en a un exemple. Le titre du livre est calligraphié en chinois, comme le titre de chacune des six parties, dont quatre portent la référence à un point cardinal, et sa signification symbolique traditionnelle précisée dans la préface du poème. Alors, j'ai précisé, y compris pour les textes lus, le titre des différentes sections. Les stèles orientées au nord, c'est le terme de Séguin, se rapporte à l'amitié et à l'amour. Celle orientée au midi entrée au pouvoir de l'empereur. L'empereur, quand il reçoit, on le voit dans la cité impériale à Pékin, le pavillon où il reçoit les visiteurs est orienté vers le midi, et l'empereur domine ses visiteurs. Orienté vers le midi, d'où le lien entre le midi et l'empereur. Les stèles orientées, c'est-à-dire tournées vers l'Orient, concernent les amoureuses. Les stèles occidentées, tournées vers l'Ouest, parlent de la guerre et des héros. Un groupe de stèles se rapporte au milieu, C'est le centre de la personne, le centre de la pensée, y compris dans la pensée chinoise. Celles d'une bord du chemin sont accessibles à tous. Alors, chaque poème porte en haut et à droite une épigraphe aussi en caractère chinois. Donc, vous en avez un exemple à la dernière page de l'exemplier. Le contenu des épigraphes sont d'origine très variable et certaines ont des sources chinoises puisées à partir de traductions anciennes dans certains ouvrages chinois. Leur sens peut constituer un contresens ironique ou poétique au poème ou une illustration ou tout autre commentaire comme une épigraphe occidentale. Quelquefois, c'est simplement la beauté des idéogrammes qui compte. Mais ce qui compte aussi beaucoup dans l'ouvrage, ce qu'il ne faut pas manquer si on veut lire Stiestel, c'est l'introduction par Ségarin lui-même. Il prévient le lecteur de n'y chercher ni des traductions, ni des descriptions du pays ou de ses mœurs, bien qu'elles soient discrètement ou non présentes, mais un simple cadre. Elle constitue, comme aller en Chine, apprendre à parler, lire et écrire la langue, connaître tout ce que la littérature, la géographie, les mœurs contiennent de nouveau. Une assistance à la recherche d'un divers authentique qui lui-même doit l'aider à identifier en lui son propre divers, son être propre. On retombe sur cette dualité de l'œuvre de Ségalin. Les systèmes que nous allons donner comme exemple sont cette caractéristique de la manière de Ségalin, mais sont loin d'en épuiser la richesse, la variété, la profondeur ou l'humour. Le choix contient une part d'arbitraire, et en relisant les textes que j'ai donné à lire, je me suis aperçue qu'ils contiennent beaucoup d'allusions à la femme, donc c'est sans doute un choix partisan que j'ai fait tout à fait inconsciemment, mais on peut en faire d'autres. Alors, nous commençons par une steppe du bord du chemin, considérée par de nombreux lecteurs comme la plus directement accessible. Beaucoup d'autres demandent quelques éclaircissements pour révéler leur beauté, d'où la recommandation en fin d'article d'exposé de certaines éditions riches en ces éclaircissements. Donc, la première steppe, c'est « Conseil au bon voyageur ».
Steppe du bord du chemin, épigraphe. Ce qu'il faut nécessairement savoir pour suivre sa route.
Alors, les épigraphes ne sont pas traduites hein, dans l'édition, mais bon, il vaut mieux avoir la traduction.
Ville au bout de la route et route prolongeant la ville, ne choisis donc pas l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre bien alternées. Montagne encerclant ton regard, le rabat et le contient, que la plaine ronde libère. Aime à sauter roches et marches, mais caresse les dalles où le pied se pose bien à plat. Repose-toi du son dans le silence, et du silence, sache revenir au son. Seul, si tu peux, si tu sais être seul, déverse-toi parfois jusqu'à la foule. Garde bien d'élire un asile. Ne crois pas à la vertu d'une vertu durable. Ronds-la de quelques fortes épices qui brûlent et mordent et donnent un goût même à la fadeur. Ainsi, sans arrêt ni faux pas, sans licole et sans étable, sans mérite ni peine, tu parviendras, non point ami au marais des joies immortelles, mais au remous plein d'ivresse du grand fleuve Diversité.
Bon, la source est visiblement l'expérience du voyageur Ségalin. Donc, il a parcouru des dizaines de kilomètres, en partie à pied, mais surtout à cheval, souvent, suivi par un train de mules qui portait les bagages. Alors, il y avait des lits, il y avait de la nourriture avec du beurre d'Isigny en conserve, il ne voyageait pas sans ça. Et il y avait son matériel photographique, et ce qui permettait de développer les photos aux étapes. Et ce qui est le plus curieux, il le dit dans ses lettres, c'est qu'il se porte parfaitement parfaitement bien, alors que tout le monde est malade dans la caravane, alors que Ségalène avait une santé quand même relativement fragile, mais quand il était à la contact et à la recherche du divers, il se portait parfaitement bien. Bon, alors la stèle suivante s'inspire d'un monument ancien, toujours fameux.
L'épigraphe, cité violette interdite. Elle est bâtie à l'image de Peking, capitale du Nord, sous un climat chaud à l'extrême, ou plus froid que l'extrême froid. Alentour, les maisons des marchands, l'hôtellerie ouverte à tout le monde avec ses lits de passage, ses mangeoires et ses fumiers. En retrait, l'enceinte hautaine, la conquérante aux âpres remparts, aux redans, au château d'angle pour mes bons défenseurs. Au milieu, cette muraille rouge réservant au petit nombre son carré d'amitié parfaite. Mais, centrale, souterraine et supérieure, pleine de palais, de lotus, d'eau morte, d'eunuques et de porcelaine, est ma cité violette interdite. Je ne la décris pas, je ne la livre pas, j'y accède par des voies inconnues. Unique, unique et solitaire, mâle étrange dans ce troupeau servant, je n'enseigne pas ma retraite, mes amis, si l'un d'eux songeait à l'Empire. Or, j'ouvrirai la porte, elle entrera, l'attendue, la toute puissante et la toute inoffensive, pour régner, rire et chanter parmi mes palais, mes lotus, mes eaux mortes, mes eunuques et mes vases, pour, la nuit où elle comprendra, être doucement poussée dans un puits.
Non, la richesse du poème est un peu difficile à donner aussi rapidement. Il y a une description de la cité interdite dans le premier paragraphe. Et dans le second, il y a la parole de Ségalène, c'est finalement celle d'un empereur qui serait l'habitant de la cité et qui serait menacé par des ennemis. Mais en même temps, sa terreur le pousse à sacrifier ce qu'il a de très cher finalement dans cette cité, c'est la toute puissante et toute inoffensive qui rit, qui chante, mais qui pourrait découvrir qu'il est l'empereur et à ce moment-là elle deviendrait dangereuse. Et c'est un peu cette crainte de découvrir en lui ou dans son entourage, mais c'est surtout dans son propre intérieur, que Ségalène, chaque fois qu'il peut s'identifier à l'empereur, finalement finit complètement terrorisé. Alors ce thème de l'empereur qui est effrayé de tout, on le trouve vraiment dans d'autres poèmes. Et la favorite poussée dans un puits, ça fait allusion à un événement qui s'est produit sous l'impératrice Tsitsi, qui avait, en craignant une invasion, avait quitté Pékin alors que son fils, le futur empereur, était resté dans la cité impériale. Et on dit que l'impératrice douairière a fait assassiner la favorite de Ségalène en la poussant dans un puits. Donc on trouve, il a raconté ça dans une pièce de théâtre, c'est Le Fils du Ciel, où les mêmes thèmes sont reproduits sous forme théâtrale. Alors, Henri Bouillet, puisqu'on en parlait, écrit le centre de ce monde décrit par la cité, c'est la capitale d'un secret dont la découverte peut coûter la vie. Et le lecteur, dans ce commentaire, peut être renvoyé aux accès de dépression de Ségalène et par anticipation à la mort. Alors, l'inspiration de la troisième stèle que nous allons écouter provient aussi d'un texte ancien.
Ordre au soleil. Épigraphe, brandissant sa lance, il commanda au soleil couchant. Marc, duc de Loup, ne pouvant consommer sa victoire, donna ordre au soleil de remonter jusqu'au sommet du ciel. Il le tenait là, fixe, au bout de sa lance, et le jour fut long comme une année et plein d'une ivresse sans nuit. Laisse-moi, ô joie qui déborde, commander à mon soleil et le ramener à mon aube. que j'épuise ce bonheur d'aujourd'hui. Là, il échappe à mon doigt tremblant. Il a peur de toi, ô joie. Il s'enfuit, il se dérobe. Un nuage l'étreint et l'avale. Et dans tout mon cœur, il fait nuit.
Alors, cette stèle a été mise en musique par Georges Bigot. Donc, certains des poèmes de Séverin ont été mis en musique, en particulier des stèles. Alors, je signale qu'on peut les trouver sur YouTube. Si on met les bons mots de recherche, on peut trouver ces poèmes interprétés quelquefois de façon un petit peu bizarre, à mon avis. Mais maintenant, chacun sait quoi. Alors, cette stèle est inspirée d'un texte des Annales, ouvrage historique qui sert d'inspiration aux poètes quand elles se tournent vers les faits de guerre. Alors, la poésie chinoise qui est recueillie dans le Cheqing, c'est le livre des vers, est une source au moins aussi fréquente que d'inspiration, mais d'autres ouvrages chinois multiplient les occasions à l'infini. Le miracle de la suspension de la course du soleil est un épisode que l'on retrouve dans les littératures d'autres parties du monde pour favoriser l'issue d'un combat et transmettait un souhait de conserver la joie dont le poète semble redouter l'évanescence alors qu'elle constitue une des valeurs de sa vie. Je vais un petit peu rapprocher. Alors, on va aborder la quatrième stèle sélectionnée.
Mon amante a les vertus de l'eau. Stèle orientée concerne les amoureuses. Épigraphe, il est impossible de recueillir l'eau répandue. Mon amante a les vertus de l'eau. Un sourire clair, des gestes coulants. Une voix pure et chantant goutte à goutte. Quand parfois, malgré moi, du feu passe dans mon regard, elle sait comment on l'attise en frémissant, eau jetée sur des charbons rouges. Mon eau vive, la voilà répandue, toute sur la terre. Elle glisse, elle me fuit, et j'ai soif, et je cours après elle. De mes mains, je fais une coupe, de mes deux mains, je l'étanche avec ivresse, je l'étreins, je la porte à mes lèvres, et j'avale une poignée de boue.
Les pointes sont souvent assez désespérantes, je trouve, dans les stèles. Donc, cette stèle décrit une passion suivie d'une désillusion, ce qui rejoint la défiance envers la femme que recèlent d'autres écrits de Ségalen, comme on peut le percevoir dans Cité violette interdite. Mais ce texte, qui plaît beaucoup en général, dégage un charme ambigu et légèrement ironique, porté par la confusion d'abord, puis l'opposition des vertus de glisser et de fuir, qualité chez l'eau et défaut chez la femme. Cette scène a été mise en musique aussi par Jacques Ibert. Alors, une autre stèle parmi celles choisies, c'est une stèle orientée aussi, qui exprime, elle, le respect de la femme aimée. Elle fut citée par Ségalen dans une de ses lettres à Hélène Hilpert, la dernière passion du poète. La notion correspond à la coutume chinoise d'omettre par respect certains caractères, certains noms. Ici, la tradition chinoise de l'interdit, portant sur le nom du règne de l'empereur, est rapprochée de l'omission volontaire du nom de l'amante, qui peut finalement conduire à l'oubli, paradoxalement, la plus radicale marque de respect.
Par respect de l'indicible, nul ne devra plus divulguer le mot gloire ni commettre le caractère bonheur. Même qu'on les oublie de toutes les mémoires, tels sont les signes que le prince a choisi, qu'il n'existe plus désormais. Silence, le plus digne hommage. Quel tumulte d'amour emplit jamais le très profond silence. Quel éclat de pinceau oserait donc le geste qu'elle ingénument dessine. Non, que son règne en moi soit secret, que jamais il ne m'advienne, même que j'oublie que jamais plus au plus profond de moi, n'écloge désormais son nom par respect.
Alors, nous terminerons l'exploration des stèles par une stèle orientée au nord. J'en ai deux ou trois autres en plus, si vous voulez, après. Qui a trait à un sentiment très important pour ces galins, l'amitié. Les amitiés, essentiellement masculines, tiennent en effet une grande place dans l'œuvre et la vie de ces galins, avec leur générosité et quelquefois leur générosité financière. C'est un de ses amis, Gilbert Desvoisins, qui a financé entièrement la première exploration de la Chine par Ségalin et Desvoisins, avec alors financière quelquefois comme avec Gilbert Desvoisins, et en plus Gilbert Desvoisins à la mort de Ségalin, avec la collaboration de Claude Farrère, l'auteur ami de Ségalin, qui était aussi officier de marine, ont permis à la famille de Ségalin de survivre pendant plusieurs années, parce qu'elle était complètement démunie à la mort du chef de famille. Donc c'était vraiment des amis généreux, fidèles tout le long des années, de voisins évidemment. Daniel de Montfort, qui était un peintre, donc auquel il a dédié des odes, je crois, Jules de Gautier, Debussy, Farrère, Loti, ou des amitiés trahies. C'est le cas de Boris Roy, qui était un ami qui s'était fait en Chine lors de son premier séjour, qui est le modèle de René Leys, le roman donc chinois de Ségalin, et qui l'a trahi et qui est montré comme ça dans le roman d'ailleurs. Alors, Empreinte, ce qui est la nouvelle stèle, est inspirée par les textes historiques. Elle décrit le moment d'une amitié blessée. C'est la première stèle écrite par Ségalin. Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Chun, empereur, donnant investiture aux cinq classes de princes, leur confiait les tablettes de jade. De contours stricts et d'ornements divers, deux colonnes, un homme au corps droit, un homme courbé, des épis, des jambes. Mais il en gardait les empreintes, parfois juxtaposant l'une à l'autre, et pressant de sa main, il vérifiait l'authentique investiture. Celui que j'ai fait noble de mon amitié, prince du sang de mon cœur fraternel et censeur à mon secret empire. Celui-là, n'a-t-il pas reçu le jade ? Deux hommes penchés, pour emblème, il revient. J'ai gardé l'empreinte. Affrontons la double fidélité. Hélas, oh, hélas, les contours ne s'enferment plus, les coins se heurtent et les creux teintent le vide. Est-ce là le dépositaire choisi ? A-t-il perdu la forme de mon âme ? Plutôt, est-ce mon âme dont la forme a gauchi ?
Donc, j'en viens à une première conclusion. Cette présentation des quatre recueils strictement poétiques de Ségalin, qui relèvent de styles chacun différents, l'un de la poésie de R.C., l'autre carrément de la poésie en prose, ou bien en vers, structuré, met l'accent sur la modernité sous-jacente de cette œuvre. Si elle est issue du plus profond du moi de l'auteur, de sa passion de la beauté, de son choix de vivre pour la joie, elle s'appuie, quel que soit le genre, sur le réel, observé, connu par l'analyse de faits ou de grimoires, de recherches, puis choisi pour qu'émerge une beauté jusqu'alors inconnue, la beauté des ports orientaux et exotiques ayant été assise sur ses genoux et injuriée, comme aurait pu l'écrire Rimbaud, un des référents littéraires du poème. C'est vrai qu'il a été, enfin, que Ségalin a été vraiment très dur, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, sur l'exotisme de pacotille, hein, qui était à la mode à l'époque de Loti, oui. J'en trouve des traces dans
des phrases critiques d'Ambrose d'ailleurs. Quand on lit Un amour de Swann, Odette a un salon décoré de poterie chinoise, et puis je ne sais qui, c'est Madame Verdurin, certes, de la salade. Je ne sais plus. C'est aussi un truc exotique. La salade exotique. Comment ?
On a fait encore le jour de la salade exotique.
Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas dans le temps, là, qu'est-ce qu'il nous reste pour moi.
Oui, c'est ça.
Ah bon. Alors, je voulais ajouter l'histoire de la publication des œuvres de Segalin. Parce que c'est quand même un mystère qu'une œuvre aussi importante, hein, l'œuvre complète, la première édition des œuvres complètes qui était dans la collection bouquin, c'est quand même épais, c'est écrit petit sur du papier fin, et c'est extrêmement varié. Alors, la raison, c'est la mort vraiment très, très brutale de Segalin à l'âge de 41 ans. Alors, il n'est pas sans intérêt de jeter un regard sur l'histoire de la publication des très nombreuses composantes de l'œuvre de Segalin, née d'un combat à l'arraché parmi les nécessités de la carrière de médecin, des difficultés financières et administratives pour pouvoir monter ses expéditions, essentiellement archéologiques, et les faiblesses de sa santé qui ont tempéré jusqu'à l'issue fatale dont il a été question dans l'introduction. La publication de l'œuvre a bien évidemment souffert de tous ces aléas. Quand Segalin est mort en 1919, il avait publié Les Immémoriaux, donc le roman océanique, si on peut dire, en 1917, au Mercure de France, et sous le pseudonyme de Max Anelli, parce qu'étant considéré comme officier de marine, il ne pouvait pas utiliser son nom civil comme auteur pour les publications. Celles pour lesquelles il avait été son propre éditeur pour une édition de bibliophile en 1912, 80 exemplaires, 9,99 me semble, sur papier coréen, plus 200 sur vélin, et une édition courante chez Cress en 1913, c'est la collection coréenne, donc dont Segalin, comme s'il avait que ça à faire, était responsable dans chez Cress, qui était un éditeur qui faisait une production recherchée et qui avait été frappée par le premier exemplaire de Segalin, donc l'a embauché pour créer une collection, dite collection coréenne, et Segalin a réussi à entortiller. Non. Claudel. Il a réussi à entortiller Claudel pour que Claudel publie dans les éditions coréennes, ce qui lui a permis de le mettre comme dédicataire sur les éditions courantes d'Estel, alors que l'édition bibliographique, l'édition de luxe qui n'avait pas été mise en vente, elle était destinée à ses amis, etc., etc., ne portait pas de dédicace. Alors il a réussi à entortiller Claudel, qui était un drôle de numéro dans son genre, à accepter d'être dédicataire d'Estel. Alors, voilà. Donc, il avait publié Les Immémoriaux, Les Stèles, Les Peintures, chez Cress aussi, à Pékin. Pendant ces années, il avait fait paraître des textes en revue, comme Gauguin dans son dernier décor, en 1904, au Mercure de France. Alors, je crois que Segalin connaissait une partie de l'œuvre de Gauguin. Et il se trouve qu'il se trouvait à Tahiti quand Gauguin est mort. Et comme le bateau, qui, c'était l'Endurance, je crois, sur lequel il était élève médecin de la marine, apportait son aide à des victimes de catastrophes climatiques, etc., il a réussi à se faire conduire jusqu'à Lille où étaient mises en vente les pièces de mobilier et les œuvres artistiques qu'on avait trouvées dans la case de Ségalen. Et il s'est trouvé, il a pu acheter, en raclant les fonds de sa bourse, il a pu acheter un certain nombre de ses œuvres. Donc il avait un tableau qu'on a vendu sous le titre « Chute de Niagara », alors que c'était un village breton sous la neige, dont il a fait cadeau à Saint-Paul-Rouge, je crois. Et il a aussi acheté les bois sculptés qui entouraient l'entrée de la case de Gauguin, qu'il a gardé lui, puis qu'il a vendu et qui sont maintenant dans des musées.
Il a récupéré aussi la palette du peintre.
Oui, la palette du peintre et des différentes autres œuvres, des sculptures, des choses comme ça. C'était dans la grande exposition sur Gauguin qu'il y a eu, on pouvait trouver tous ces détails.
Et peintre, c'est pas Gauguin, c'est absolument pas la petite Gauguin. Il a découvert Gauguin après coup.
Ah, c'est après coup qu'il a écrit les textes sur Gauguin, mais il avait été alerté, il avait dû voir
un mort.
Voilà. Ils se sont ratés une histoire de deux mois. Hein. C'était
Saint-Paul-Roux qui a sur Gauguin. Il fallait bien demander, voilà, de vous rater. Voilà. C'est Saint-Paul-Roux.
Oui, mais. Il avait un sens de l'art suffisant pour identifier ce qui valait la peine effectivement d'être rapporté. Voilà. Bon, donc après ces différentes incitations et après avoir visiter l'endroit où était mort Gauguin, il avait été en fait fasciné aussi en tant que personne, fasciné par l'autre, fasciné par les choses étranges, par les vies exceptionnelles. Il a été fasciné par la personnalité de Gauguin et par sa façon de vivre dans la joie et dans voilà, la sensualité et la joie.
La beauté des îles, en dépit des tours missionnaires, voilà. La perte des autochtones qui ont été détruits par la religion.
Oui, c'est ce qui est contenu dans les immémoriaux, effectivement.
La fin d'une civilisation, une culture des immémoriaux.
Il a voulu écrire un livre qui traite du même sujet dans Bretagne. Parce que c'était un breton attaché à son pays d'origine.
Revenir en Bretagne.
Voilà.
Chaque fois, il oppose en rapprochant. Il y a le même et l'autre. Il galère en permanence.
Oui, c'est ça.
Le même et l'autre, c'est le même. Et
voilà. Alors, donc j'en étais à la publication des œuvres. Donc, le double Rimbaud aussi, il a fait une escale à Aden dans un des voyages qu'il a fait. Et je pense que c'est ça qui a activé sa réflexion sur Rimbaud, dont il connaissait parfaitement l'œuvre, hein. C'était qu'il relisait sans arrêt. Donc ça a été publié au Mercure de France, toujours en 1906, et il a publié des articles d'archéologie, surtout scientifiques, dans le bulletin archéologique du musée Guimet. Alors ça a été une grande surprise, parce que quand je suis arrivée à la fin des œuvres complètes, il y a les œuvres scientifiques, effectivement, les publications scientifiques de ces gars-là. Eh bien, en tant que scientifique, j'écris moi-même des articles scientifiques, et je dis, mais tiens, mais il est de la maison, parce que ce sont des véritables articles scientifiques. Il a dû être peut-être un peu relu, un petit peu corrigé, mais vraiment, c'est bien cadré, très précis, argumenté, c'est tout à fait magnifique. Et dans ses lettres, il a dit... En gros, il sous-entendait que ça avait été un peu une purge d'écrire. Il devait écrire ses articles parce qu'il avait été en partie financé par différents canaux officiels. Donc il devait justifier de l'utilisation des crédits. Hein. Donc il avait été obligé. Et il disait qu'il attendait d'avoir le temps de pouvoir réécrire la même chose, mais avec sa langue à lui et en laissant son imagination courir sur les découvertes qu'il avait faites, quoi. En gros. Alors, toutes les photos qu'il a faites ont été publiées aussi plus tard, une publication, je ne sais plus quel organisme. Je les ai vues en main, ces photos. Donc il y a les photos des grandes statues qu'il avait découvertes et dont qu'il avait fait lui-même avec plusieurs essais. Bon, ce sont les meilleures qui ont été publiées. Et c'est l'article qui était un de ses grands amis qui avait partagé sa deuxième exploration. Et l'article devait faire une étude hydrologique pour la construction d'un canal ou le détournement d'une rivière, mais il avait participé aussi aux explorations archéologiques. Donc c'est lui qui s'est occupé de finir le travail de publication du récit de ces explorations. Alors, ça... Et en 1922, il y a René Leys qui est paru chez Grèce, toujours. Alors, en fait, ce que j'ai dit, je pense, au début, Séguin laissait à la garde, en particulier de sa famille Yvonne, qu'il a toujours secondé avec un grand dévouement, une grande quantité de documents et de manuscrits soigneusement classés. Il avait fait construire par un menuisier de la marine des casiers qui lui permettaient de transporter bien classés ses œuvres pendant ses voyages, parce que c'était risqué, hein, de transporter des œuvres d'art, de transporter des œuvres en train d'être écrites, etc., etc. Il devait avoir des bagages tout à fait extraordinaires. Enfin, il était dans la marine, il savait comment s'y prendre. À la partie du remariage d'Yvonne, j'ai cru discerner que c'était en 1930, mais je ne suis pas trop sûre. Essentiellement en vue d'assurer l'éducation et l'avenir de ses enfants, quand la mort de son mari l'avait laissé dans un grand dénuement, ses documents sont restés enfermés dans une grande armoire dans l'appartement familial. Je crois que c'est Gilles Mansereau qui écrit ça dans sa biographie de Séguin. Et plus tard, c'est leur fille, Annie Jolie Séguin, qui s'occupera de la mise en ordre et de la publication des différentes œuvres en chantier et de la republication de certaines. C'est en 1955 que paraîtra une nouvelle édition des Immémoriaux, et à partir des années 50, le plus souvent sur l'impulsion d'Annie, comme pour l'ouvrage publié en 1955 par le Club du Livre, qui contient, outre stèles, des extraits d'ouvrages non encore publiés. Les publications intégrales suivront pendant toute la seconde moitié du siècle et au-delà, chez divers éditeurs, toujours le Mercure, Fata Morgane, Rougerie. On reconnaît les éditeurs qui font des éditions rares. C'est aussi caractéristique de la diffusion de l'œuvre de Séguin.
La publication de la correspondance c'est Fayard 2004 sera assurée en partie par sa petite fille Dominique Lelon. L'université, en liaison avec la famille, s'est emparée de la biographie et de l'œuvre de Ségalen à la personne du normalien Henri Bouillet. Et sa première contribution, issue de sa thèse, est un livre sobrement intitulé « Victor Ségalen », paru au Mercure de France en 1961, puis réédité en 1986. Il a ensuite publié ou republié en édition critique et souvent avec la collaboration d'Annie ou un grand nombre d'œuvres. On lui doit en particulier la première édition critique d'Estelle, chez Plon en 1963. C'est là que j'ai vraiment découvert Ségalen, quand j'ai eu cette édition commentée, parce que la terreur continue, hein, franchement. Il a fortement contribué à l'édition des œuvres complètes de la collection bouquins, dans celle-là, et a participé à l'édition de la correspondance. Il est mort en 2014. Actuellement, la relève universitaire, outre quelques thèses dispersées non dépourvues d'intérêt, se fait autour de Christian Doumé, qui a dirigé, avec de nombreuses collaborations, l'édition des œuvres littéraires et critiques dans la collection de la Pléiade. Cette édition s'est faite sur une analyse renouvelée, enrichie de documents autographes, sur un renouvellement aussi de la façon de publier les textes inachevés ou dont l'auteur n'était pas arrivé à la forme de publication. Toujours en liaison avec la famille, l'association Victor Ségalen constitue une source continuée de documents, d'informations et de réflexions sur la personnalité, la vie et l'œuvre de cet écrivain polymorphe et souvent précurseur. Bon, ici encore du temps.
Pas beaucoup là, non.
Bon, mais on peut s'arrêter.
C'est la place avec les questions, sinon.
Oui. Alors, je signale aussi que j'ai mis une bibliographie sommaire, c'est pour les gens qui voudraient, qui ne connaissent pas trop Ségalen, qui voudraient se cultiver de façon plus approfondie. Mais si vous voulez poser des questions, que ce soit sur la biographie de Ségalen, parce que c'est un véritable roman.
Hein.
Et la question de l'opium. Non, j'ai pas tout raconté sur ces galères. Oh là là. Oh. Alors, ben. Donc, ces galères avaient été élevées chez les jésuites. Ensuite, il avait préparé le certificat donnant accès aux études médicales à la faculté de Rennes, des sciences de Rennes, et ensuite il avait fait ses études de médecin pour la marine à l'école de Bordeaux. Et l'école de Bordeaux, c'était quelque chose de tenu très strictement. Et puis Ségalen avait un directeur de conscience que sa mère lui avait désigné. Mais les jeunes gens savent vivre leur vie sans que le directeur de conscience ou les règles de vie de l'école les entravent beaucoup. Donc, le milieu des officiers de marine, chez les officiers de marine, fumer de l'opium est une tradition et très répandue. Claude Farrère a failli mourir, hein. Il est venu se faire désintoxiquer à Brest, juste avant que Ségalen meure, qu'il s'est occupé, il n'a pas réussi à le désintoxiquer complètement, mais il y avait l'opium, il y avait la cocaïne, il y avait tout ce que vous voulez. Et donc Ségalen apparemment a réussi à ne pas devenir véritablement dépendant de l'opium, mais il en a fumé pratiquement toute sa vie, jusqu'à peut-être, il s'est arrêté 2 ou 3 ans avant sa mort, apparemment. Hein, bon. Et y compris dans ses pérégrinations, hein, évidemment en Chine, c'était plus facile à trouver. Et on pense que c'est quand même le fait de fumer de l'opium qui a contribué à dégrader sa santé. Alors, ça a été un enfant fragile. Hein. Sa mère disait à tout le monde, cet enfant n'est pas comme les autres.
Et ce gars-là, qui a essayé de faire un essai sur moi-même, je crois, a repris cette expression. Ma mère disait toujours que j'étais un enfant, pas un enfant comme les autres, mais ça avait l'air de lui plaire pas mal. Et il a souffert de dépression assez souvent. Alors il y a un épisode qui fait sourire tout le monde. Quand il a rencontré sa femme, ça a été un véritable coup de foudre, et ils ont décidé de se marier parce que ces gars-là devaient repartir sur un bateau, et donc ils se sont fiancés. La semaine suivante, ces gars-là ont fait une dépression qui a duré 2 ou 3 semaines, et sa vie comme ça. Voilà.
Et il a fait à Bordeaux quand sa mère l'interdit de sortir avec les femmes.
Oui, c'est le moment où il se sentait le mieux, c'était quand il était en expédition. Et alors, mais aussi, il était déjà fatigué. Et pendant la guerre de 14, il a exigé, il a joué des pieds et des mains pour être envoyé au front. Et apparemment, il a très mal supporté ça. Ses lettres n'en portent pas trop la trace, hein, parce qu'il écrivait à sa famille, donc il ne voulait pas inquiéter sa famille. Mais les gens qui l'ont connu ont dit cette expérience de la chirurgie au front, ça l'a vraiment touché. Donc il est rentré, il a eu un congé, et puis il a fait encore des pieds et des mains pour être renvoyé en Chine. Donc il est reparti en Chine pour recruter des travailleurs chinois. Ce que dans ce pays on appelle, enfin, on utilise le mot chino pour l'équivalent d'esclave. Dire, bon, enfin, ces gars-là, ils ne les exploitaient pas, simplement ils les recrutaient. Et là, il a encore fait des excursions parce qu'il voulait écrire un livre sur la grande statuaire chinoise, et donc il a complété son information, ses photos, etc., etc. Il est rentré, ça s'est mal passé, le bateau est tombé en panne, je ne sais pas, bon, il est rentré à Brest. À Brest, il s'est occupé de l'épidémie de grippe espagnole, et là, ça a été horrible. En particulier, il s'occupait des enfants atteints de la grippe espagnole, et ça a été vraiment une épreuve supplémentaire.
Les gens jeunes, les soldats jeunes,
voilà. De toute façon, les soldats, ils étaient jeunes. Oui.
Il ne
pouvait
absolument rien faire. Il les voyait mourir. Il les voyait
le matin vivant, le ciel était mort. Et quand vous parlez de textes scientifiques, c'était de quelle nature, médecine justement?
Non, de l'archéologie.
Archéologie.
Oui, il était vraiment multitâche, comme on dit maintenant. Et sa thèse de médecine, c'est ce qu'on appelle maintenant des thèses d'exercice. Donc moi, j'ai assisté à des thèses où le sujet, c'était les chansons de corps de garde, enfin de nuit de garde.
Une thèse de médecine?
Oui.
Ah, ça va.
Et c'était très bien reçu. Ségalen a écrit une analyse du comportement neurologique des... Je suis pas capable de citer de tête. Comment ? Il est clinicien S-lettres, c'est le titre noble. Le titre de la thèse était un peu plus scientifique. Mais c'était quand même l'objet. Il s'était intéressé beaucoup à la psychologie, aux maladies neurologiques et tout ça. Et ce qui l'avait frappé, c'est. Bon, dans les auteurs. Ah oui, il avait été ami. Oui, en particulier ça. Mais bon, c'était un de ses nombreux centres d'intérêt. Donc, pour en terminer avec sa mort, il est parti en Algérie avec sa femme en cure de repos. On lui avait recommandé de se mettre au soleil, de bien dormir. Ça s'est pas bien passé. Ils sont rentrés en France.
il était en congé toujours, et pour essayer de reprendre, alors là il y a eu un épisode un peu malsain, j'ai trouvé. Sa femme avait une amie, d'enfance, qu'elle aimait beaucoup, elle s'entendait vraiment beaucoup, et qui avait la réputation d'être quelqu'un de solaire. Donc elle lui a présenté son mari, et ils sont tombés amoureux tous les deux, cette vie de sa femme. Donc je crois que ça l'a perturbé, ça aussi. Ça l'a aidé d'une part, parce que bon, il connaissait quelqu'un qu'il aimait, etc., etc., mais en même temps, ça le mettait dans une situation fausse par rapport à sa femme. Enfin, c'était pas très sain comme situation. Donc, tout à fait à la fin, il est parti se reposer à l'Elgoat. C'est un village de montagne, si on peut dire qu'il y a des montagnes en Bretagne, qui est très, très vallonné, avec des rivières, un ancien camp gaulois, on pourrait pas convoquer à celle, pas son époque. Et sa femme est venue le voir, puis il est reparti parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de ses enfants. Il est parti en excursion et il n'est pas revenu de 2 jours. Donc à l'hôtel, on a prévenu sa femme. Et avec cette amie, donc, et amoureuse, elles sont parties toutes les deux. Sa femme a dit, s'il est arrivé quelque chose, je pense que je sais où il est. Effectivement, ils l'ont trouvé là. Alors la querelle, c'est que on l'a retrouvé avec une plaie à la cheville, donc d'une artère qui avait été coupée. Alors les partisans de l'accident ont dit il s'est coupé sur un bois qui dépassait, qui avait été coupé en ciseaux. Il avait essayé de mettre un mouchoir, parce que en tant que médecin, il était un peu chirurgien aussi, ça avait été une hémorragie. Hein. Il avait essayé de mettre un mouchoir, mais il a peut-être eu un malaise. Donc ça, c'est la thèse de l'accident. Et il y a d'autres personnes qui disent qu'en fait, c'est lui qui a provoqué la blessure et qui s'est suicidé. Alors, bon, moi, je refuse de trancher. Il est mort dans ces circonstances. Alors, il était en uniforme de médecin de la marine, comme quoi ça lui tenait au cœur, hein, quand même, contrairement à ce que certains disent. Et il avait Hamlet ouvert à une page qu'il devait lire, qu'il devait aimer particulièrement, à côté de lui. Voilà. Et il pleuvait.
Question très 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 anecdotique, mais il se trouve que bon, vu les caractéristiques de la prononciation en breton, faut-il dire Ségalène ou Ségalin? Alors je suis allé au Belgoat il y a quelques années, j'ai posé la question à plein de gens, on m'a répondu, j'ai strictement rien compris, je ne sais toujours pas. Alors qu'est-ce que Madame Priva peut nous dire, nous éclairer sur Ségalène, Ségalin? Allez-y.
Bah, j'ai entendu beaucoup de querelles. Il y a 2 querelles à propos du nom de Ségalène. Faut-il l'écrire avec un accent ou sans accent? Dans sa jeunesse, Ségalène mettait l'accent et puis après il l'a supprimé. Donc je n'ai pas d'accent. Et je pense que ça doit dépendre de l'endroit. Parce que le breton, d'abord il y a des bretons, et ils ne se prononcent pas tout à fait de la même façon d'un endroit sur l'autre. Donc c'est comme pour l'amour de Ségalène, j'arrive pas à choisir entre les deux nations. Oui.
À propos du nom de Ségalène, Victor avait souhaité que la prononciation soit Ségalène. Et à propos de l'accent, Christian Doumé rapporte toujours que ça s'est passé. Vous me redirez ou vous préciserez s'il le faut. Ça s'est passé au moment où Clémenceau a lui aussi enlevé son accent. Donc c'est plutôt une question d'esthétique rapportée à l'histoire de l'époque même, de la jeunesse du Seigneur. C'est une question d'esthétique qui prime. Pour l'accent, mais pour la prononciation également. Ségalène était très musicien, pratiquait.
Oui, il était capable, à partir d'une partition, de la traduire pour le piano, de faire l'adaptation, de la transposer pour le piano. Et il a noté, il y a en particulier sur une affiche, quand on a fait l'exposition qu'on a faite dans l'université, on a fait une exposition des poèmes sur les murs. C'est resté intact pendant 2 ans. Les gens ne les ont pas enlevés. Sauf un qui a été surpris en train de voler une affiche. Et oui, je sais plus de quoi on parlait.
Eh ben de nom. De
ah oui, on avait mis sur une des affiches la notation des chants des marins du Yangtze, parce qu'ils notaient quand ils rencontraient une musique qu'il arrivait à noter, il la notait et l'archivait.
Les chants maori.
Oui. Il avait noté les chants maori et il avait aussi bourré son roman d'immémoriaux de mots et de locutions maori qui ne sont pas traduites, ce qui fait que l'outil qui avait reçu le livre lui a dit: c'est peut-être un livre très intéressant, mais il est incompréhensible. C'était un côté pour un rendu.
On termine peut-être, il est à peu près l'heure là.
Oui.
Donc bah, écoutez, merci beaucoup, donc, c'était merci. Fort enrichissant et intéressant.
Je vous remercie de m'avoir supporté.
Non, c'était très très bien.